Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Quelle tête feriez-vous si vous appreniez que le chef de l'État se déguisait régulièrement pour rester incognito ? Étonnant, mais pas tant que ça. À l'époque de François Ier ou de Louis XIV, il était même courant pour les souverains de se déguiser et de nombreuses occasions de la vie sociale s'y prêtaient. Les rois et princes de l'époque moderne revêtaient alors les habits du berger, du jardinier ou du charbonnier, puisés dans les œuvres populaires du moment. Cette réalité qui imite la fiction a inspiré l'historien Yves-Marie Berset, qui nous fait l'honneur d'être l'invité de l'entretien de cette semaine. Yves-Marie Berset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ancien directeur de l'École des chartes, et vous avez publié cette année « Bons princes et ministres haïssables au XVIe et XVIIe siècle ». Et dans cet ouvrage, vous montrez comment certains grands personnages de l'histoire ont imité des héros de papier. Vous avez étudié à la loupe les liens entre la vie sociale et la vie fictionnelle à l'époque moderne, et on va voir au cours de cette émission qu'ils étaient particulièrement intenses à cette période. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, je le rappelais à l'instant, donc vous êtes historien. Et quand un historien se lance dans un projet, on s'attend à ce qu'il aille puiser dans la connaissance historique officielle. Or, vous, pour écrire ce livre, eh bien, c'est la fiction qui a été votre matériau principal, qui vous a aidé à soutenir votre analyse. C'est la première fois que vous partez de la fiction pour analyser, comprendre l'histoire ?
Je dirais plutôt que l'histoire est une suite de récits qui ne sont passés dans la réalité, mais qui peuvent être représentés comme autant de fictions, et qu'à chaque époque, il y a une multitude infinie de possibilités, de récits, des événements qui vont survenir, et il y aura une seule version qui va s'imposer dans la suite des temps, et celle qui sera tenue pour nécessaire, évidente, et qui en réalité aura été construite et imaginée auparavant. Alors, on comprend bien que l'histoire donc est une multitude de récits, que la fiction, les récits de la fiction sont supposés imiter la réalité, qu'une pièce de théâtre ou un roman, pour être crédible, doivent présenter des situations empruntées à la réalité. Et mais ce que j'essaie de renverser, l'idée que je propose, c'est que la réalité, à son tour, imite la fiction. Elle le fait volontairement ou involontairement. Pourquoi est-ce que la fiction se transforme en réalité ? Pourquoi le théâtre, le roman vont inspirer l'attitude des personnages d'une époque ? C'est que, au fond, la fiction et la réalité se nourrissent à l'imaginaire d'une même époque. Au fond, il n'y a pas un véritable paradoxe, parce que la fiction et la réalité, le roman et l'histoire, empruntent leurs images, leurs intrigues, à un même corpus qui est partagé par tous les contemporains
par l'air du
d'un
temps.
Pays, par l'air du temps, voilà.
C'est ça. Effectivement, vous dites au début du livre, on a coutume de dire que la vie inspire le théâtre, mais l'inverse est également vrai, et c'est ce que vous avez voulu démontrer.
Apparemment, c'est un paradoxe. Mais le paradoxe, si vous voulez, on peut l'atténuer beaucoup en montrant qu'effectivement, simplement, ces deux éléments, la fiction et la réalité, se nourrissent à la même source.
Et vous dites que chaque génération a ses inspirations, ses couleurs, avec des nuances particulières. Et donc, si chaque époque a son idéal de fiction, quels étaient les récits, les histoires dans l'air du temps sous François Ier, Henri IV ? Qu'est-ce qui faisait vibrer le public à cette époque ?
Plutôt, je dirais que ce que nous pouvons en savoir, nous dépendons des sources, des petites nouvelles à la main, des gazettes, des nouvelles du jour. Le journalisme tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire une périodicité régulière d'informations, voit le jour au début du XVIIe siècle. Les gazettes de Hollande, de Venise, apparaissent vers 1610, 1620 avec une régularité. Mais auparavant, il y a tout un tas de canards, comme on disait, de nouvelles à la main, de petites brochures vendues pour quelques deniers sur le Pont Neuf ou sur les marchés, et qui tenaient lieu de presse, enfin, qui reflètent les opinions, les nouvelles et inévitablement l'imaginaire de ce temps.
Et alors, quel était l'imaginaire de ce temps? Quelles étaient les histoires racontées? Qu'est-ce qui intéressait le public à l'époque?
La naissance d'un enfant à deux têtes ou bien la découverte de l'Amérique sont deux événements, vous voyez, qui sont dignes d'être rapportés. Donc, ce qui est extraordinaire, ce qui peut changer le cours du temps, les événements militaires, les accords diplomatiques, les successions dans les couronnes, les malheurs des temps, par exemple, je ne sais pas moi, un tremblement de terre, voilà, qui est raconté effectivement dans les nouvelles à la main.
Alors, revenons à la fiction. Elle s'exprime à l'époque, donc à travers donc, des romans et puis beaucoup par le théâtre. Et à cette époque, les codes du théâtre sont très présents dans la vie en société. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, c'était des sociétés qui étaient très théâtralisées?
Oui, de même que j'ai évoqué la naissance des gazettes, de la périodicité d'une information par la presse au début du XVIIe siècle, le théâtre de très tôt, de pièces consacrées, imprimées, diffusées, d'acteurs professionnels qui participent régulièrement dans les grandes villes ou qui circulent à travers les provinces, ça, ce sont des modes de comportement, de divertissement de la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire, mettons que c'est la génération avant les gazettes, deux générations avant. Les deux grands théâtres européens, les Français, on évoque tout de suite, mettons, Corneille, Racine, Molière, c'est le XVIIe siècle. Mais, en fait, les Espagnols et les Anglais nous précèdent de une ou deux générations. Shakespeare, et c'est les années 1580, et de même en Espagne, Quevedo, etc. Et Cervantes, ce sont des gens-là qui sont à cheval sur les dernières décennies du XVIe et du XVIIe siècle. Alors, le théâtre ne naît pas complètement à ce moment-là. Il y avait eu les mystères au Moyen-Âge, mais le théâtre tel que nous le concevons avec la professionnalisation, puis les grands écrivains de théâtre là, qui apparaissent, qui n'existaient pas auparavant, c'est les dernières décennies du XVIe siècle.
Et alors, une pratique va se développer et va devenir très populaire à l'époque, au théâtre comme en société, c'est le travestissement, et vous en parlez longuement dans votre livre. Le fait d'adopter des vêtements, une conduite associée au genre opposé, c'est assez courant à l'époque?
Eh bien, il faut comprendre que l'identification des individus n'est pas du tout évidente. Je ne vous apprendrai pas qu'il n'y a pas de photographie, et qu'il n'y a pas de portrait régulier de tout un chacun, qu'on peut y avoir des portraits infidèles des grands personnages, et que reconnaître quelqu'un, comme après tout l'anecdote, c'est que Louis XVI n'a été reconnu lors de la fuite de Varennes qu'avec son effigie sur une pièce de monnaie. Et reconnaître un individu comme le roi de France, c'est
son
pas
visage
du tout
n'était
évident.
Pas reconnu.
Donc l'identification des individus est choquant. Enfin, le déguisement est quelque chose qui est extrêmement facile et qui fait partie, je dirais, du divertissement essentiel, passer pour quelqu'un d'autre. Changer de personnalité, de rang social, de sexe, ce sont des divertissements, si vous voulez, fabuleux, et qu'accorde l'Église dans les temps du carnaval, par exemple. C'est donc une forme de divertissement facile, général, autorisé, auquel ne répugnent pas les plus grands personnages, dans la mesure où c'est même un usage politique. Il y a la tradition qui vient de l'Antiquité, et puis des contes des milieux de nuit, la tradition arabe, qui sera connue seulement au début du XVIIIe siècle en Occident. C'est le sultan de Bagdad qui circule dans les rues inconnues pour écouter l'opinion. Cette idée-là, que le roi écoute l'opinion en se déguisant, c'est un mythe politique très révélateur, très symptomatique d'une époque. Et puis, vous avez l'idée de l'amoureux qui va reconnaître l'identité de la fiancée qui lui est promise, qu'il veut séduire.
Le jeune prince, peut-être le jeune qui prince, s'éveille à l'amour. Ça,
qui s'éveille à l'amour, et on le retrouve. Alors je prends l'exemple des contes russes qui ont été analysés, mais qui sont un modèle, je dirais, international, qui est peut-être anthropologique. C'est Ivan Tsarevitch, le fils du tsar, quitte la cour dans son adolescence pour fuir la jalousie de son père vieillissant, les médisances des courtisans, et il s'en va par le monde, habillé en simple chasseur. Alors, il va rencontrer des méchantes fées, mais des pauvres gens qu'il va secourir. Et ces pauvres gens vont être, à leur tour, avoir des pouvoirs magiques. Donc, vous voyez,
c'est un motif qui revient très souvent.
Il va trouver une fiancée, mais aussi il va retrouver l'usage du monde. Il va vaincre les méchants, tuer des monstres.
Oui. Il doit se déguiser pour triompher des obstacles
pour un jour.
Et
pour
de ses adversaires.
Son apprentissage de prince, si vous voulez. C'est l'idée de la... qui est mythique, mais c'est un mythe politique essentiel. C'est que l'avènement du jeune prince, eh bien, il a son temps d'impunité et de gloire. C'est, après tout, un président de la République élu récemment, on dit qu'il a une période de grâce. Bon, eh bien, c'est la même chose. Un jeune prince, si vous voulez, il remplace le vieux roi que tout le monde a connu, mais qui a vieilli trop longtemps. Et avec le jeune prince, c'est le renouveau. Et le renouveau, c'est les déguisements, les bals de la jeunesse, etc.
Et ces jeunes princes donc, peuvent se déguiser, peuvent prendre l'apparence de femmes, mais pas que. Ils peuvent vous dites dans le livre qu'ils se déguisent par exemple en berger, en jardinier. Oui. Est-ce que ces déguisements ont une signification particulière ?
Le berger, bien sûr, a un sens particulier parce que le berger, il est seul dans la nature avec son troupeau de moutons, de bétail. Il connaît les étoiles, il connaît la nature, il connaît les bêtes. Il a une sorte de sagesse solitaire. Et puis, c'est un métier courant, si vous voulez, au fond, un berger dans l'ancienne société rurale.
Et ça
est essentiel.
Et ça renvoie
donc,
à l'image de l'homme simple.
Une sagesse profond. Donc, que le prince se déguise en berger, c'est un déguisement facile et un déguisement symbolique qui a une force particulière.
Et il y a toujours une dimension morale dans ces récits, dans ces œuvres.
Oui, bien entendu qu'il y a une morale édificatrice. Alors là, si vous voulez, c'est le deuxième pan de mon livre, c'est-à-dire j'ai choisi deux thèmes, on dira narratifs, fantasmatiques, qui sont le déguisement du prince, symbole de printemps, de jeunesse, de renouveau politique, puisqu'il s'agit d'histoire politique symbolique. Et le deuxième élément, qui est en quelque sorte le revers de la médaille, l'hiver après le printemps, c'est la chute, la disgrâce et la mort du mauvais, mais enfin, non pas qu'il ait été spécialement mauvais, mais qu'il a duré trop longtemps, et que par conséquent,
le
ministre faut qu'il paye les défaites, les malheurs, les dettes de l'État.
Oui. Vous parlez du ministre
on dire
au
que,
service
je veux
du
pas
roi.
Faire d'allusion politique, mais on comprend parfaitement que cette notion de renouveau et puis de bouc émissaire un jour, ça s'applique à tous les régimes politiques. Alors, je les ai choisis dans le cadre des monarchies qui sont le gouvernement essentiel des XVIe et XVIIe siècles, mais j'invite, dans ma conclusion, les historiens d'autres époques à recueillir les mêmes formes d'imaginaire. Je pourrais inventer une nouvelle manière d'écrire l'histoire, mais je crois que faire une attention spécifique à l'imaginaire politique, pas seulement, vous voyez, à l'histoire rigoureuse, institutionnelle, événementielle. Elle est vraie, je ne la discute pas, mais l'imaginaire la colore et la fait mieux comprendre qu'un traité de droit des institutions.
On y reviendra tout à l'heure. Je voulais juste continuer sur quelques questions sur cette pratique du déguisement, du travestissement, du prince déguisé. Donc, elle est très populaire à l'époque moderne, mais à quand remonte-t-elle exactement ? Est-ce qu'elle était déjà pratiquée au Moyen-Âge ?
Bien oui, dans les fabliaux, dans le théâtre des troubadours, oui, il y a des exemples. Enfin, je ne suis pas assez connaisseur, si vous voulez, de la littérature médiévale, mais je vous renvoie aux travaux de mon confrère et ami Michel Zin, qui vous dira tout ce qu'il faut sur les textes médiévaux amoureux.
En tout cas, je voulais donner un chiffre aux auditeurs assez marquant. Vous avez regardé les travaux d'un professeur de littérature qui s'est intéressé à la période.
Ah oui, c'est Georges Forestier, la thèse.
Exactement, Georges Forestier, qui a recensé les pièces de théâtre de l'époque.
Et françaises.
Française et qui a démontré qu'à peu près un tiers des scénarios font intervenir des personnages qui se travestissent. C'est absolument
c'est,
énorme.
C'est une thèse sur la littérature théâtrale française du XVIIe siècle.
Oui,
et
donc,
alors, si vous voulez, l'époque c'est vraiment, est limitée. Je ne pense pas qu'on aurait trouvé la même chose pour le XXe siècle, par exemple, ou le XIXe siècle. Alors, bien sûr, si dans Feydeau ou ailleurs, qui s'enferment dans des armoires, qui sont passés pour d'autres, mais c'est une sorte d'intrigue, de jeu de scène qui est beaucoup plus rare. Tandis que, visiblement, au XVIIe siècle, c'est ce qu'attendent les spectateurs.
Le public.
En tout cas, c'est une ruse de l'auteur de théâtre qui passe très bien, qui est accepté par le public.
Et qui fait intervenir des déguisements.
Oui.
Et donc là, on se basait sur une étude qui a été faite sur des pièces françaises, mais c'est tout aussi populaire dans d'autres pays, l'Angleterre, l'Espagne.
Dis, j'ai beaucoup pris d'exemples d'Espagne,
d'Espagne notamment.
Et d'Angleterre. Et ce n'est pas par hasard, c'est qu'effectivement, le théâtre naît dans ces deux pays assez différents finalement, mais au même moment en Angleterre et en Espagne.
Alors, on se déguise beaucoup, mais pas qu'au théâtre à cette époque. On se déguise également dans d'autres, à d'autres occasions de la vie en société. Vous en parliez il y a quelques instants. Par exemple, quand on part à la guerre, les princes vont avoir coutume de se déguiser aussi.
Alors ça, c'est un usage de la guerre. C'est-à-dire que, comme vous le savez, au XVIe et XVIIe siècle, le roi s'expose encore dans la tête de ses troupes. Il y a des rois tués au combat au Moyen-Âge. Ça, à la mesure que la fonction souveraine du roi prend plus d'importance et de pouvoir central régalien, on ne va pas exposer prend conscience de
du risque.
Caractère essentiel de la vie du roi. Henri IV va au combat. Louis XIII, non, il est présent. Louis XIV, non plus, en fait. On le montre toujours, mais il est d'une autre rive du Rhin, il est en arrière-garde, et il y a toujours des courtisans pour dire « Sire, ne vous exposez pas », etc. En fait, quand le roi s'exposait, l'usage était d'avoir autour de lui d'autres chevaliers, d'autres compagnons, qui aient la même tunique, les mêmes couleurs héraldiques, si vous voulez, les
D'accord.
mêmes signes. D'une part, c'est une forme d'amitié, de compagnonnage du souverain, et puis aussi, c'est pour tromper l'ennemi qui, croyant tuer le roi, tue un de ses compagnons.
Et donc, il peut se déguiser donc à la guerre, mais à d'autres occasions, pour un long voyage aussi, par exemple.
Alors, pour un long voyage, pour aller, alors tout de même, j'ai cité beaucoup d'exemples, et ce n'est pas des exemples de romans de théâtre, c'est la vérité.
Et oui, c'est pas au
il
théâtre.
Va chercher, le roi va chercher sa fiancée, et il va, on voit le roi d'Angleterre, le roi d'Écosse, vont eux-mêmes, sous un autre nom, aller dans les cours. Alors, bien sûr, ils ont l'intermédiaire d'ambassadeurs, de marchands qui peuvent les renseigner, leur savoir quels sont le marché des princesses à marier dans l'ensemble de l'Europe. Mais on a donc les rois Jacques V d'Écosse, Charles d'Angleterre, qui n'est pas encore Charles Ier, son père Jacques Ier étant encore sur le trône. On le promet à ce moment-là à la main d'une infante d'Espagne. Ça ne marchera pas parce que chacun des partis, Angleterre et Espagne, de confessions chrétiennes différentes, juge utile cette alliance, mais voudrait convertir l'un des deux conjoints. Donc c'est ce qui fait la récession religieuse, fait échouer. Mais le prince Charles va effectivement,
se
sous
rendre.
Le nom de Thomas Smith, à Madrid, et il réveille à 2h du matin l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid, extrêmement embarrassé, en lui disant « Je suis le prince de Galles et je voudrais rencontrer l'infante d'Espagne ». Et alors, les Espagnols sont au courant, ils font semblant de…
Oui, tout ça, c'est très codifié.
tout est codifié, oui. Et on fait promener l'infante d'Espagne dans les jardins de Madrid, et elle a au bras un ruban bleu, pour la distinguer des autres demoiselles d'honneur qui sont avec elle, pour qu'ils sachent
que c'est
laquelle. Voilà. Et on nous dit que le prince de Galles, donc, l'ayant reconnue, la regarde comme un chat regarde une souris.
pour voir si elle correspond
voilà,
bien.
Si elle correspond à ce qu'il attend.
À ce qu'il attend. Et ouais. Alors, est-ce qu'elle correspond?
Mais non, ça aurait pu y rester 2 mois à Madrid. Tout était pour le mieux, simplement, l'argument de religion n'a pas été résolu.
A été plus fort. Donc, ce sont principalement des hommes qui se déguisent. Est-ce que les femmes aussi vont avoir recours au déguisement, pas au théâtre, mais dans la vie courante?
Effectivement, dans la vie réelle, il y a énormément, et ça surprend d'ailleurs, de femmes en habit de soldats, par exemple, qui vont dans les armées ou qui s'exposent dans des conspirations, qui chevauchent, habillées avec des costumes de chasseurs, chevauchant comme un homme. Bon, c'est une pratique réelle. Maintenant, il n'y a pas cet aspect de fantasme politique qui est opérationnel, qui est une pratique diplomatique pour les princes. Ce sont les princes qui choisissent leur fiancé. Ce n'est pas l'inverse. Bien sûr, chaque couronne avance ses filles, mais ce n'est pas possible. On ne peut
non,
pas
non,
envoyer
sûr.
Une princesse à l'étranger.
Mais il me semble que vous dites que parfois, elles ont recours au déguisement lorsqu'elles veulent peut-être se protéger aussi.
Alors,
parfois.
Alors oui, si, effectivement.
À cette occasion.
Je connais l'exemple, j'ai cité des reines de Pologne, oui, voilà. Mais une personne d'ailleurs âgée, là, qui simplement ne veut pas être reconnue pour ne pas être embarrassée par des quémandeurs. Oui, être incognito, c'est aussi échapper aux sollicitations importunes,
aux dangers.
Oui, aux dangers que représente la personnalité d'une princesse ou d'une reine. Et puis, échapper, je vous dis, aux importuns, aux courtisans.
Qui étaient importants déjà à l'époque.
Aussi pour échapper aux honneurs. C'est-à-dire que quand une princesse, enfin une reine, voyage dans un pays étranger, pour des raisons de santé, par exemple des cures thermales à Baden ou à Bagnères de Bigorre, elles peuvent passer les frontières, mais il faudrait, selon le protocole, que le gouverneur de la province l'accompagne.
Organise une cérémonie pour l'accueillir.
Une cérémonie qui coûterait très cher. Qui embarrasserait, qui ferait beaucoup d'honneur, mais qui embarrasserait tout le monde, qui ferait dépenser beaucoup d'argent, de sorte que,
pour gagner
là
du
aussi,
temps.
C'est un usage politique, c'est d'être incognito pour ne pas embarrasser, pour ne pas susciter, si vous voulez, une avalanche de dépenses.
Bien sûr. Mais je voulais revenir sur le carnaval. Tout à l'heure, vous avez évoqué le carnaval qui était aussi populaire à l'époque, parce que c'était une rare occasion d'inverser les codes, étiquettes de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que le déguisement, c'était aussi une sorte de régulateur social pour faire en sorte que les populations les plus simples, les plus pauvres, aient l'occasion de se déguiser une fois par an pour ne pas ensuite remettre en question.
Ça ne concerne pas, je pense, les plus pauvres, ne fût-ce que parce qu'un déguisement, ça suppose des moyens. Mais il est vrai que, si vous voulez, c'est un jour de festivité et que tous ceux qui en ont la possibilité y participent. Et ça, même dans les fêtes de campagne. Le carnaval, c'est donc en février-mars, en fonction des dates de Pâques. C'est une période où il n'y a pas de grands travaux dans les champs, où les récoltes de l'année précédente sont arrivés à l'automne, on a tué le cochon, on a des cochonailles, on a du vin nouveau et on n'a pas de famine au début de l'année. Les disettes et famines, c'est au cours de l'été ou de l'automne. C'est une période prospère et les historiens de la population le vérifient. Le maximum de conceptions liées au mariage sont en février, mars. Dans l'Europe chrétienne, c'est comme ça. C'est une raison à la fois religieuse et économique.
Ouais.
Mais je dirais que la religion a suivi l'économie ou l'économie suivi la
tout
religion.
Tout est lié. Tout
c'est parfaitement lié.
Alors, on comprend bien au cours de cette discussion, le théâtre occupe donc une place très importante à l'époque. Les souverains sont très friands de cet art. Louis XIV, par exemple, crée la Comédie française. Il est passionné par les spectacles. Est-ce que le théâtre est intégré à l'éducation des nobles de l'époque?
Oui, bien sûr. D'abord, effectivement, parce qu'ils jouent et que déjà, les princes de la Renaissance jouent dans des danses, mais dans des ballets, dans des mises en scène, en tout cas de divertissement. Et puis, les jésuites créent, fin 16e, début 17e, un théâtre scolaire.
Ça faisait partie de l'éducation jésuite.
Ça faisait partie de l'éducation jésuite, oui. Que vous retrouvez d'ailleurs indépendamment des jésuites, bien sûr, dans les collèges anglicans. Ils ont suivi au XVIIe siècle la même ce qui était effectivement très éducatif. Donner à un adolescent l'audace, si vous voulez, de jouer, d'apprendre. Tous ces gens-là, l'éducation des élites était fondée sur des travaux de mémoire considérables. Mmh. Donc, jouer un rôle, ça faisait partie de... Apprendre un rôle.
De l'éducation d'un futur prince. Ça faisait partie de l'éducation
des jeunes gens.
Alors, on a beaucoup, justement, parlé de la représentation du souverain, du prince au théâtre et en société, mais votre livre s'appelle donc « Bon prince et ministre haïssable ». Donc, un mot sur les ministres de l'époque, justement, vous en avez déjà parlé il y a quelques minutes, mais vous dites qu'il y a donc un archétype du mauvais ministre. Ils ont coutume d'être impopulaires à l'époque ?
Pas plus à l'époque qu'aujourd'hui. Je dirais que, si on veut replacer dans le cours des temps l'évolution des institutions de gouvernement... Le souverain, à partir du XVe siècle, ne peut pas résoudre tout seul, avoir présent à l'esprit les problèmes de budget, d'impôts, de guerre.
Il doit déléguer.
Il doit avoir des conseillers. Déjà, les rois médiévaux avaient des conseillers, qui étaient des grands seigneurs ou des prélats, etc. Mais ce qui est nouveau au cours du XVIe siècle, ce sont des secrétaires. Le roi a autour de lui des bureaux. Et c'est pour la France, Henri II, dans les années 1550, crée 4 secrétaires d'État qui vont rester en fonction, qui sont la guerre, les affaires étrangères, l'intérieur et la religion. Mm-hmm. Alors, ils échangent plus ou moins des attributions, ils ont un certain nombre de provinces, mais ce sont des gens qui sont de grands juristes, de bonne naissance, mais ce ne sont pas des grands seigneurs. Mm-hmm. Ils n'appartiennent pas à la grande noblesse. Ce sont des savants juristes. Eux, ils ne prennent pas, ils exécutent, ils travaillent, ils renseignent le roi, mais ce n'est pas eux qui vont décider, ils vont peut-être influer, mais c'est eux qui vont décider de la paix ou de la guerre. Par contre, pour des grandes décisions, le roi a besoin d'un ami, de gens auxquels il peut se confier, bavarder,
oui, d'un bras droit,
faire confiance. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le favori, qu'on appelle valido en espagnol, ou privado, le mignon.
Le mignon
qui n'était pas dans la langue du XVe, XVIe siècle, n'est pas péjoratif. Ça vient de latin minutus, qui est petit ami, compagnon, conseiller, mais dans le meilleur sens du terme. Et ces liens de dépendance étaient affichés dans la société, ne choquaient pas comme... Ils existent aujourd'hui, ou bien on les caricature, mais on ne les avoue pas de la même manière. Mmh. Et alors, effectivement, les politologues, depuis Machiavel, mettons, ou Botero, ou Grotius ou autres, ont raisonné sur le fait que le souverain est obligé de déléguer ses prérogatives souveraines à un conseiller, enfin tout au moins, de partager ses idées avec un conseiller. D'où alors... La surveillance, si vous voulez, et la jalousie des grands seigneurs ou du peuple vis-à-vis de ce personnage. Ce ne sont pas, vous voyez, comme les secrétaires qui font vraiment un travail administratif.
Oui, et
c'est
plus
un
officiel.
Personnage, là, qui est un ami du souverain et qui va donc être soupçonné, à tort ou à raison, d'usurper. D'usurper et le pouvoir du roi d'être... Et effectivement, un jour ou l'autre... Il aura duré trop longtemps. Voilà. Et un jour ou l'autre, le roi, même s'il garde son amitié, sait qu'il ne peut plus, il compromet sa dignité s'il laisse. Donc, il fait payer.
Ministre.
Mais c'est une loi d'airain, si vous voulez, cruelle. Oui. Il doit faire payer au ministre ses erreurs, ou les défaites qu'il a subies. Mais de même qu'un président change de...
Premier ministre.
Pourquoi ça allait mal, ou il a duré trop longtemps, voilà. Et ça n'entache pas, aujourd'hui, dans les institutions, l'autorité du président.
Le fonctionnement.
Oui, voilà. C'est la sauvegarde du pouvoir central. C'est ça l'idée. Mmh. La légitimité, elle est incarnée par le chef de l'État.
Par le roi, le souverain.
Et alors, il y a là encore un apologue espagnol. Le roi qui laisse un favori gouverner à sa place, il n'y règne pas. Il rêve qu'il règne, mais
il ne règnera jamais concrètement. Alors, tous finissent par payer, les ministres, sauf un, Mazarin, vous dites...
Mais Richelieu et Mazarin, là, en France,
vous dites qu'ils ont,
qui ont été prodigieusement détestés,
mais
qui ont suscité des guerres civiles.
Intouchables.
Alors, intouchables dans l'historiographie française, parce que l'un et l'autre sont morts à un moment de victoire militaire et diplomatique. En 1642, quand Richelieu meurt, la France vient de gagner le Roussillon, de battre les Espagnols en Roussillon, en Picardie. Louis XIII est très faible, mais enfin, les armées françaises ont réussi partout. Richelieu meurt, en quelque sorte, en pleine gloire. Mazarin, même chose, il vient de réussir le traité des Pyrénées. On peut dire qu'avec Richelieu et Mazarin, le territoire français ressemble à peu près à sa configuration actuelle de l'Hexagone. Donc,
une période assez prospère.
Ils sont liés, c'est fascinant, au roman national français. Tous les hommes politiques se réfèrent à Richelieu, à Mazarin un peu moins, parce qu'il y a l'aspect italien, rusé.
Il était d'origine italienne, Mazarin.
Oui, bien sûr. Mais Mazarin a réuni la plus gigantesque fortune qui scandalisait les contemporains. Même à l'époque, c'était vraiment démesuré. Mais il est totalement absous dans la postérité.
Alors, au fil du temps, la popularité de ces fictions, de ces récits, va s'essouffler. Et vous expliquez que le modèle du bon prince affaibli par son mauvais ministre laisse place à un autre modèle. Est-ce que c'est, on peut dire que c'est symptomatique d'une nouvelle façon d'envisager le pouvoir à l'époque, avec une autorité plus qui se veut plus puissante.
L'État est de plus en plus complexe et abstrait, beaucoup moins personnalisé. Alors, bien sûr, ici, il y a toujours un chef de l'État, mais on sait bien que les rouages du gouvernement ne sont pas résumés en un seul personnage. Et au XVIIIe siècle, déjà, il y a une multiplicité de les ministres de Louis XV, les ministres de Louis XVI se succèdent, ils sont nombreux, il n'y en a aucun qui polarise à la fois la confiance ou le rejet, comme ça a été au XVIIe siècle. C'est beaucoup moins, le pouvoir est beaucoup moins personnalisé.
Je voulais vous poser quelques questions de fin autour de vos recherches de façon plus générale. Alors, dans ce livre, vous vous intéressez surtout aux élites de l'époque, les souverains, les ministres, les artistes du moment. Mais vous vous êtes intéressé au cours de vos recherches à des sujets aussi plus populaires. Yves-Marie Bercé, comme par exemple la révolte des croquants, qui est une révolte paysanne qui a lieu au XVIIe siècle. Naviguer d'une classe sociale à une autre et puis étudier les rapports de pouvoir entre ces classes, c'est un des fils conducteurs de vos recherches.
Oui, si vous voulez, je me revendique comme historien de la société et des institutions. Donc, la société, ça comprend tous les individus, quel que soit leur rang. Alors, c'est vrai que j'ai débuté ma carrière et que, mettons que la plupart de mes travaux portent sur les révoltes paysannes. Bon, je crois, enfin, que la réputation, si vous voulez, de mes recherches porte avant tout sur les paysans. Mais en même temps, j'essaie plutôt de faire une histoire de plus longue durée. Je ne m'attache pas. J'aurais dû peut-être me spécialiser au règne de Louis XIII, la première décennie du XVIIe siècle. Mais je suis plus tenté par le comparatisme des sociétés, des institutions. Et sans le vouloir, je me trouve amené à faire du comparatisme des pouvoirs européens. Vous voyez, je n'ai pas cherché du tout à complaire aux institutions de Bruxelles, mais je constate simplement qu'il y a un destin commun
des peuples
des
européens,
des royautés scandinaves ou des princes italiens, que les rois d'Angleterre et les rois d'Espagne passent par les mêmes étapes de royaume féodal, de la place des commons, des états généraux, des fueros
en Espagne.
Un enchaînement
qui revient. Et,
voilà, du despotisme éclairé ensuite, au XVIIIe siècle, des révoltes, des révolutions au XIXe siècle. Tout ceci, vous le trouvez avec des dates un peu différentes. Mais il y a vraiment un modèle de gouvernement politique des puissances occidentales, voilà. Alors, la Pologne en fait partie, vous voyez. La Russie n'y accède qu'au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors, d'où cette, si vous voulez, cette orientation.
Cet intérêt.
Enfin, j'essaie de faire effectivement un comparatisme et de trouver des anecdotes qui illustrent ce passage-là de la fiction à la réalité, de la réalité à la fiction, dans l'histoire anglaise, dans l'histoire des pays scandinaves, qui est extraordinaire, que beaucoup de gens ne connaissent pas bien. Je ne prétends pas être spécialiste de l'histoire de la Suède.
Ce sera un prochain
mais
livre.
Mais tout au moins, j'ai lu ce qui était en anglais ou en allemand ou en français sur ces pays-là, et on voit tout à fait, si vous voulez, il y a des, dans la mesure où c'est des petits États relativement, mais puissants, on voit assez facilement chez eux les évolutions, vous voyez, des institutions qui sont en réduction, celles de la France.
En guise de conclusion, donc vous laissez le lecteur en lui rappelant que les pages de votre livre se limitent à l'époque monarchique, mais qui n'est pas impossible...
Même au XVIe, XVIIe siècle.
Oui, 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 bien sûr, jusqu'au temps moderne. Mais qu'il n'est pas impossible de les transposer donc ailleurs, plus loin dans le passé, ou alors jusqu'à aujourd'hui. À votre avis, Marie Berset, ce sera ma dernière question. Que diront les historiens de demain sur le rapport que nous avions en 2023 au récit et à la fiction? Parce qu'ils étaient très forts sous l'Ancien Régime, pendant les temps modernes. Est-ce qu'ils le sont toujours autant aujourd'hui, selon vous?
A priori, je pense que l'histoire est avant tout un récit. Je ne sais pas moi, est-ce que vous arrivez à lire les suppléments économiques des quotidiens? Ou si vous lisez un quotidien, vous jetez plutôt sur les nouvelles politiques, sur la liste des événements qui sont des narrations. Une étude, je dirais, de longue évolution, même sur l'année, sur une conjoncture, vous la devinerez plutôt sur des magazines trimestriels ou autres, que vous verrez, mettons, un recul de temps qui permet de mieux mesurer une évolution. Alors, au bout du compte, nous sommes séduits avant tout par l'événement.
Toujours. La force oui. du storytelling, on dit aujourd'hui.
Oui.
Un grand merci Yves-Marie Berset d'être venu donc au studio de Canal Academy pour nous présenter donc ce livre qui nous livre des pistes originales pour mieux comprendre donc le monde d'hier et d'aujourd'hui. Et donc je rappelle le titre « Bon prince et ministre haïssable au XVIe et XVIIe siècle » et c'est aux éditions du Cerf.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Canal Académie.